Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 3. Cette semaine, on va parler d'un possible calendrier de 30 courses. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Et on va parler un petit peu de la possible arrivée. Ben en fait, on va se dire de l'arrivée du Grand Prix de Las Vegas en 2023. Pour parler de calendrier, j'accueille avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria.
Salut Adou.
Comment vas-tu?
Ça va bien. J'ai pris le temps d'ouvrir le micro et de fermer.
Oups! C'est des trucs qui arrivent. Et on a Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Ah, et Marc-André lui aussi a oublié d'allumer son micro.
Salut Abdou.
Ça va?
Ça va très bien. Je m'étais dit justement, je ne ferai pas l'erreur d'Anna Maria. Et oui.
Et la fin. On a parlé trop vite. Alors, on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc, on a un calendrier actuellement de 22 courses. Bon, à l'origine, on était à 23, mais étant donné que le Grand Prix de Russie a été annulé pour de bon, pour les raisons évidentes, c'est-à-dire la guerre, l'invasion russe en Ukraine, on a 22 courses, on en aura peut-être 23. Et lors de la fin de semaine du Grand Prix de Bahreïn, le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a, disons, dit que il y aurait un intérêt de remplir le calendrier de Formule 1 jusqu'à 30 courses. Donc, évidemment, on ne parle pas d'ici l'année prochaine, mais peut-être dans les années à venir. Donc, c'est une entrevue qu'il a donnée à Martin Brundle à Sky Sports lors du Grand Prix de Bahreïn entre le 18 et le 20 mars. Alors, tout de suite, Ana Maria, Marc-André, quel est votre avis sur un possible calendrier de 30 courses?
C'est d'un ridicule, honnêtement. On est tous fans, on aime la Formule 1, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Et je pense surtout aux écuries, parce que ben, même pour nous, je pense que c'est Jean-Sébastien qui le disait dans notre conversation privée du bulletin GP, mais 30 courses, c'est littéralement 30 week-ends que nous prenons, ou une portion de 30 week-ends que nous prenons pour la Formule 1. Est-ce que vraiment j'aurais le temps d'écouter 30 courses durant l'année? Je sais pas, puis je veux pas j'aimerais ça ne pas en manquer non plus, parce que la Formule 1 voit trop grand, et présentement c'est un peu ce que je remarque. Ils veulent absolument faire du profit, c'est uniquement du profit actuellement. Parce que je crois que tout le monde est heureux présentement, avec un calendrier de 22 à 25. Il y en a beaucoup des mécontents dans le paddock. Et donc, à un moment donné, il va falloir que ça l'arrête. Déjà à 25, les mécanos disent que c'est peut-être un peu trop. Maintenant, est-ce qu'il y a une manière de jouer avec le personnel maintenant? Je crois que non. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'à où ils vont aller. Mais moi, à 30 courses, c'est vraiment énormément trop. Mais écoute, on verra ce que la Formule 1 va décider. Moi, je pense qu'un calendrier entre 20 à 22 Grands Prix, ça me semble raisonnable. Côté profit également, je ne sais pas exactement c'est quoi le montant d'argent que la Formule 1 gagne annuellement, mais je ne crois pas qu'elle ait en manque d'argent nécessairement.
Mm-hmm. Ana Maria?
Oui, comme disait Marc-André, est-ce que 30 Grand Prix, c'est comme trop, et dans le sens que si la F1 il veut être plus écologique, il veut faire plus pour l'environnement, il va mettre 30 courses, c'est quand même trop, et pour le monde aussi, on n'a pas le temps. On pas le temps de suivre 30 Grand Prix, parce que ça veut dire que c'est 30 fins de semaine qu'on attend des courses, et pour le monde qui travaille dans les, dans la F1 qui voyagent avec sont déjà épuisés. L'année passée, il y avait des mondes qui étaient déjà épuisés. Alors, tu peux imaginer avec tant de courses, comment est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'il y a comme aucune logique entre qu'est-ce qu'ils veulent faire au niveau d'environnement, de coupure de budget versus 30 courses.
Ouais. Et je dois dire aussi, je pense que on s'entend tous, on est tous fans de Formule 1, on veut regarder tous les Grands Prix. Mais en même temps, comme Marc-André l'a dit, pour nous aussi, c'est un peu trop parce que on peut pas passer 30 fins de semaine. Bon, quoique moi, mon horaire actuellement me permet de regarder 30 Grands Prix durant l'année. Mais en même temps, j'ai une pensée pour le personnel de la Formule 1 parce que on parle beaucoup de santé mentale et l'épuisement professionnel existe. Ça existe. Il ne faut pas penser que la Formule 1 est immunisée de cela. Je lisais aussi, je ne dirais pas le nom de la personne. Mais une créatrice de contenu partageait des avis de mécaniciens de la Formule 1, de n'importe quelle écurie, qui disaient que c'est beaucoup trop des gens partant 22 courses. Et là, dans l'accord Concorde, qui est le genre de convention collective de la Formule 1 avec la FIA, la FOM et les écuries, on peut avoir jusqu'à 24 courses. Donc là, actuellement, il y en a officiellement 22, peut-être 23 si la Formule 1 devait trouver une solution de rechange pour la Russie cette année. Et là, une fois que l'accord Concorde, qui se termine en 2025, se termine, ben là, Dominique Cali a, disons, a, disons, l'occasion d'augmenter. Et il faut, si on regarde aussi l'aspect positif, la Formule 1 veut continuer de se solidifier comme sport automobile reine, comme la reine du sport automobile. Alors, évidemment, avec l'intérêt, avec Drive to Survive qui a augmenté les codes d'écoute dans chaque pays, surtout aux États-Unis, et on va en parler justement des États-Unis. C'est clair qu'il y a certainement de la demande. Enfin, c'est ce que Dominique Allais dit. Oui, vas-y, Marc-André.
Mais il y a une demande, mais est-ce que cette nouvelle, disons, clientèle est intéressée par 30 Grands Prix? Ça, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que, oui, tu as réussi à les accrocher avec bon, Drive to Survive, ça bouge, c'est très en version cinéma, tout ça. Mais quand je regarde un peu le portrait, je me dis, bon, ben, la personne qui découvre la Formule 1 va la découvrir tranquillement. Va commencer à écouter quelques courses. Un jour, va être plus accroché parce que là, tu commences à connaître les pilotes. C'est pas sorcier. On a tous passé par là. Et là, ben, il y a une facette qui existe, c'est Drive to Survive. C'est peut-être plus facile de s'y accrocher. Mais je me demande vraiment si cette nouvelle clientèle va réellement s'asseoir pendant 30 Grands Prix juste parce qu'ils ont quitté du Hard to Survive. Il y a aussi cette logique-là à voir que 30 Grands Prix, c'est énorme. Puis ma comparaison est peut-être vraiment excessive, mais au baseball, il y a 180 matchs. C'est impossible de toutes les regarder. C'est vraiment impossible de tous les regarder. Donc, à un moment donné, il y a aussi cette logique-là de ma perception qui fait en sorte que il y a, oui, tu veux en mettre plus des courses parce que c'est bon, un meilleur profit, peut-être. Il y a une raison pourquoi ils veulent le faire, mais en même temps, pour une fois, ce serait peut-être le fun que la Formule 1 écoute un petit peu plus les mécanos, les pilotes, les dirigeants d'écurie, les gens qui sont sur le terrain.
Ouais.
C'est vraiment ça l'important.
Oui, au moins, j'imagine qu'ils vont regarder les sondages parce qu'ils ont fait les sondages cette année. Ils demandent si combien de courses on était capable d'accepter. J'imagine que même nous, qu'on suit la Formule 1 depuis longtemps, on n'est pas capable de suivre 30 grands prix. Pas de vacances, ça veut dire pas de vacances, pas d'été, et ça va commencer quand la saison aussi, parce qu'il faut se déplacer. C'est pas juste dire on va faire 30 grands prix, mais où? Comment?
Il y a aussi ça. Puis, je pense que ton point écologique était assez intéressant, Maria, tantôt. Tu disais, bon, ben là, on veut en faire moins. Mais là, tu viens de rajouter 8 déplacements en avion qui n'existaient pas avant. Et puis, déjà là, on disait, ouais, la Formule 1 commence déjà à se faire critiquer sur le plan écologique en raison des déplacements en avion. Mais là, tu en rajoutes.
Et si je peux ajouter aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une discussion concernant la possibilité de regrouper les courses selon les régions. Donc, c'est-à-dire, on a une région européenne, ensuite on a une région dans les Amériques ou bon, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et ensuite la région dans Asie, Moyen-Orient. Je trouve que c'est une bonne idée, mais le problème, c'est la météo, parce que, évidemment, on parle de regrouper, mais je prends l'exemple de l'Amérique du Nord. Tu veux pas regrouper le Grand Prix du Canada et un des trois Grands Prix des États-Unis, parce que ça, non seulement ça va être du cannibale. Je dis cannibalisme, évidemment, il y a la distance géographique, mais la météo aussi, hein, tout dépendamment. C'est pas pour rien que la Formule 1 a décidé de mettre Miami au mois de mai, parce que c'est, je pense, un des mois les moins propices aux ouragans, tempêtes, tropicales. Même chose probablement pour, je mets en exemple, la Malaisie, si jamais elle voulait revenir. Donc, il y a ça aussi. Et Texas aussi, hein, il fait chaud en juin au Texas. Alors, il y a tout cet aspect aussi. Je comprends niveau envie, ce serait possible, mais est-ce que faisabilité, c'est quelque chose qui se ferait? Même chose pour les courses en Europe aussi, parce que les températures peuvent ressembler à celles de l'Amérique du Nord, surtout qu'on est dans le même hémisphère. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui risque d'être compliqué à faire, un calendrier régional selon les pays. Oui, Anna Maria?
Oui, mais je dis, ça dépend des pays, mais je retourne à la question est, des fois, la Formule 1, il fait des contradictions parce que, comme tu dis, c'est sûr qu'à Miami, faire un Grand Prix, mais l'époque des ouragans, il va arriver, si je ne me trompe pas, à la fin, après le mois d'août. C'est là que ça commence un petit peu, mais ils ont mis comme le Grand Prix de Miami. Après, on retourne à Monaco. Après, on retourne à Montréal nouveau. Fait que je ne comprends pas c'est quelle la logique de mettre les Grand Prix de Monaco et après Azerbaïdjan avant de venir à Montréal, à la place de laisser au moins Miami, Montréal. C'est suivre, je dis, mais je comprends qu'à la fin, le mois de mai, il y a l'indicat, mais oui, mais ça, c'est avec le Grand Prix de Monaco, que ça tombe toujours pendant le Grand Prix de Monaco, mais de mettre Miami comme coupé en deux, fait qu'ils sont assez heureux. Je pense qu'ils voulaient être sûrs de mettre un déplacement de plus.
Mais aussi le
Parce
truc.
que
Oups, excuse-moi.
l'aller-retour à Montréal, on comprend, ça se fait toujours parce que c'est pendant l'été, on ne peut pas aller avec Mexique et Texas. Mais pourquoi pas mettre Miami à la place d'Azerbaïdjan?
Mais tu vois, le problème, c'est que c'est une. Il y a une question de cannibalisme de marché. Parce que l'exemple que je vais donner, c'est Malaisie. Parce que le Grand Prix de Malaisie n'est plus dans le calendrier parce qu'il y a un manque d'intérêt. Et le Grand Prix de Singapour a carrément bouffé la fanbase en Malaisie. Et puis c'est proche géographiquement. Oui, vas-y, Marc-André.
Mais je crois que la différence, et ça se peut que je me trompe, j'ai l'impression que la clientèle entre le Grand Prix de Miami et celle de Montréal est tellement à l'opposé que je pense que ça a
Oui,
réussi quand même à avoir
oui,
toi aussi.
oui.
mais regarde, parce que si tout, désolé, je t'ai coupé, parce que si tu regardes Montréal, il est tout à fait l'opposé. Ici, c'est un grand prix d'ici, familial, tout le monde y est venu ici, l'ambiance, tout. Mais Miami, tu vois, le monde, il n'est pas capable d'acheter des billets. Il y a des gens proches qui disent, ben voyons donc, on retourne à Montréal parce que Miami, c'est cher, c'est des grands prix, je ne sais pas, show star ou quelque
Ça
chose
va
comme ça.
être un Grand Prix événementiel, alors
Oui,
que
c'est ça, comme
à Montréal,
Monaco.
c'est encore un Grand Prix de passion. Je sais pas si je m'exprime suffisamment bien, mais j'ai l'impression que la clientèle est différente, puis je crois qu'on réussira à avoir une cohabitation qui fonctionnerait tant écologiquement que sur les revenus. Mais encore là, il faudrait avoir les chiffres du Grand Prix de Montréal pour voir, comparer d'où viennent les gens, par exemple. C'est Dumontier aussi qui pourrait nous donner ces réponses-là, mais les gens qui viennent des États-Unis viennent de quel endroit? Est-ce que c'est plus du Maine, du Vermont, tout ça? Est-ce
Ben
qu'il y
c'est
en a qui
sûr.
partent du
Ouais,
Texas?
sûrement, ouais.
C'est sûr que
Et
c'est beaucoup de monde proche.
en ayant ces chiffres-là, on pourrait faire un peu une vision de qui aux États-Unis viennent au Canada pour le Grand Prix. Puis là, on pourrait avoir un portrait plus clair de la situation. Présentement, c'est de l'hypothèse, mais j'espère que la Formule 1 a fait cette étude, ou du moins cette réflexion, parce que si c'est juste justement une parenthèse de cannibalisme, je pense que ça peut se régler quand même. Parce que là, c'est vraiment ridicule. Tu pars d'Azerbaïdjan, tu t'en vas à Miami,
Ah ouais, je suis
ensuite
d'accord,
tu vas à
je suis
Monaco,
d'accord.
puis tu vas à Montréal.
Je suis
Complètement
d'accord.
ridicule. Les distances sont tellement absurdes.
Oh, excusez.
C'est ça. C'est absurde.
Ouais, c'est ça, Azerbaïdjan-Montréal, il faut que tu passes par Londres, l'Égypte comme escale. Mais pour revenir un peu dans le sujet de 30 courses aussi, un des aspects positifs que pourrait avoir une course à 30, à une saison à 30 courses, ce serait de pouvoir attirer plus de sponsors. Parce que déjà, la Formule 1 a réussi à réattirer Lenovo, à réattirer MSC Cruise, et non pas pour Mick Schumacher ou Michael Schumacher, tenons-le pour dit. Et là, il y a des images qui passent pour Salesforce, qui est une compagnie technologique, une des plus grandes compagnies technologiques aux États-Unis. Donc, il y a un peu plus d'intérêt de sponsors et même Oracle, qui a signé un contrat monstre avec Red Bull aussi. Faramineux. Donc, c'est 500 millions pour 5 saisons, pour être le commanditaire principal
Pas
de Red
trois.
Bull. Non, je pense que c'est 5. Je pense que
Ouais,
c'est 5
ok,
saisons.
j'étais sûr que c'était trois.
Ouais.
Mais ça revient au même. C'est complètement fou. C'est complètement faramineux comme j'ai. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, en même temps, je regarde de l'autre côté. Est-ce que ça va également permettre à des compagnies, disons, appartenant à des princes, ou, tu sais, comme par exemple Aramco, ont les moyens de se payer des sponsors comme ça? Est-ce qu'on va arriver à un moment donné où les sponsors, ça va tellement coûter cher que ça va être des compagnies comme ça qui vont pouvoir se le permettre? J'ai hâte de voir. C'est
Ah.
aussi de cette évolution-là.
Mais ça dépend. Ça va dépendre parce que, évidemment, oui, il
Mais
va y avoir des compagnies comme Aramco, mais d'un autre côté, il peut y avoir, par exemple, Coca-Cola, si je ne me trompe pas, qui a un partenariat avec
McLaren. Et derrière McLaren.
Oui, mais elle pourrait par exemple dire, ben, on veut s'associer avec la Formule 1, on veut rendre ça, on veut s'exposer de manière plus globale, amener le sport à un autre niveau. Comme ça pourrait être, par exemple, une compagnie qui est vraiment sketchy comme Aramco. Désolé, je sais qu'Aramco a, je mets entre guillemets, l'intention de vouloir redorer son image, mais ça a été une des compagnies qui a le plus pollué au cours des dernières années. Donc, il y a effectivement, comme tu dis, l'envers de la médaille concernant les sponsors. C'est quel genre de sponsor que la Formule 1 veut attirer?
Qui pourrait bénéficier de ces 30 courses également.
Exactement.
Mais il a les problèmes, c'est que, par exemple, les promoteurs, c'est lui qui organise l'événement. Il n'y a aucun retour sur les droits de télé. Et c'est là que la Formule 1, mais il veut vendre partout parce que pour eux, 30 courses, c'est les droits de télé, l'argent qu'ils reçoivent, mais ils n'ont rien à voir avec les promoteurs. C'est qui va aller voir la course parce que les promoteurs, c'est eux qui s'occupent de vendre les billets. De faire venir le monde et c'est lui qui organise l'événement, fait qu'à la finale, il vient juste demander l'argent, mettre sur la télé, ramasser l'argent de la télé, des gros sponsors et on s'en va. Et ça, pour les équipes aussi, ben, tant qu'il y a de l'argent, ben, ils vont recevoir plus. Mais ça peut tout le marché aussi parce que à partir du moment que le monde est moins intéressé, les sponsors aussi, ils vont prendre la retraite.
Ouais, exact. Puis, si on regarde aussi, bon, avec plus de grands prix, ça va amener un peu plus de tourisme, créer un peu plus de jobs. Mais évidemment, on en a parlé de l'aspect négatif. On est tous d'accord. Ben, écoute, oui, vas-y, Marc-André.
Il y a aussi peut-être l'envers du décor dans tout ça. Tu sais, là, je vais vraiment créer une exagération pour l'image. Et par exemple, la Formule 1 s'installe 4 fois en Italie, par exemple. Là, c'est vraiment une exagération. Mais est-ce que réellement l'Italie a le marché pour 4 Grands Prix? Tu sais, c'est aussi ça, à un moment donné. Il va falloir que... Il y a une saine gestion de l'espace dans tous les pays pour avoir un Grand Prix également.
Ah, et puis, justement, je pense, j'ai passé une bonne partie de la journée à lire sur Twitter le commentaire de nombreux partisans, pour ne pas dire partisans européens, qui sont en « s'il vous plaît », pour ne pas dire en furie, que la Formule 1 aille 3 courses aux États-Unis, et c'est là mon point. Parce que, évidemment, je sais que, bon, on peut dire, bon, il est présentement 21h37 au moment où on enregistre, mais on peut dire qu'officiellement, la Formule 1 ira à Las Vegas en 2023. Et ce sera une course nocturne, fort probablement le samedi, ce qui est une première depuis Grand Prix d'Afrique du Sud 1985. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec la tenue de 3 Grands Prix, mais tu parlais justement de marché, Marc-André. Le marché américain peut se permettre d'avoir 2 ou 3 courses. Certes, peut-être pas sur des circuits mythiques comme Watkins Glen, Indianapolis, Elkhart Lake, mais ces circuits sont tous de grade 2 ou 3, à part Indianapolis. Donc, est-ce que tu veux vraiment ruiner la beauté de ces circuits pour accommoder la Formule 1, détruire la nature? Et on l'a vu avec Mexico quand il est revenu, le circuit est complètement transformé de ce qu'il était avant. Autre point aussi, évidemment, je lisais ça aussi, aller de Vegas à Austin, je crois que c'est à peu près 1 500 miles, je ne me souviens plus en kilomètres, donc il y a quand même une grosse distance. Et même chose pour Miami. Donc, Le marché américain est capable de soutenir trois Grands Prix par année. Et ce n'est pas la première fois que ça l'est fait. Ça, en 82, avec le Grand Prix de Détroit, le Grand Prix de Long Beach et le Grand Prix de Caesars Palace. Ça, ils ont été capables, mais la réalité de 82 est différente de celle d'aujourd'hui où encore sur ESPN, le Grand Prix d'Arabie Saoudite a été la deuxième course la plus regardée de l'histoire de la Formule 1 aux États-Unis, derrière le Grand Prix du Brésil de 95, justement diffusé sur ESPN. Et on l'a vu aussi, le Grand Prix des États-Unis à Austin, il y avait plus de 400 000 spectateurs sur l'ensemble des 3 jours, c'était rempli. Oui, bon. Évidemment, ils ont levé les barrières COVID, on s'entend, mais c'est quand même un gros chiffre, une des plus grosses assistances de l'histoire de la Formule 1. Donc, l'aspect Drive to Survive a aidé aussi, le championnat qu'on a eu aussi a aidé. Donc, la Formule 1 ne veut pas se détruire l'aspect européen, parce que c'est le cœur de la Formule 1. Elle veut juste aller chercher d'autres marchés, ben, d'autres marchés là où ils peuvent aller chercher de nouveaux fans, et aussi une deuxième course en Chine, un retour en Afrique du Sud, mais aussi aller chercher un peu plus d'argent pour rester viable pendant des années, parce que il ne faut pas oublier, la Formule 1 est un business comme n'importe quel championnat sportif que vous voyez. Il faut qu'elle reste, excusez-moi le terme, relevant, qu'elle aille voir les marchés où ils le font. Donc, que les Européens le veuillent ou non, si la Formule 1 voit qu'aux États-Unis, il y a un marché pour obtenir de nouveaux fans de Formule 1, qu'ils le fassent. Et ils le feront aussi en Chine, ils le feront peut-être en Afrique du Sud, mais encore là, il faut que l'argent suive. C'est pas. Par exemple, je vais vous laisser ainsi la parole. Il y en a beaucoup qui disent: Ah, oh, mais il faut que la Formule 1 revienne aux sources. Par exemple, il faut qu'il retourne en Allemagne. OK, mais est-ce qu'il y a un pays, est-ce que Nürburgring, est-ce que Hockenheim a l'argent ou un promoteur pour payer le montant que d'autres pays pourraient avoir? Surtout qu'on a des contrats. Eux, ils font des contrats à long terme de 10, 15 ans à peu près. Alors, il y a ça aussi. Et pour ceux qui disent, qui chialent que les États-Unis ont 3 courses, je tiens à rappeler que dès l'année prochaine, COVID ou pas, il y aura 2 Grands Prix aux États-Unis, en Italie, pardon, à Monza et à Imola. Et Imola qui a signé un contrat pour quelques années. Alors, l'argument de chialer pour avoir 3 courses aux États-Unis, elle ne tient pas la base dès le départ.
Non, mais
Vas-y, Adam,
non, à il parlait, je dis, mais ce qui m'agace, c'est que la question, il n'y a aucune question logique de critiquer avoir 3 courses aux États-Unis, parce que c'est juste parce que c'est aux États-Unis. Tu comprends combien de monde il y a de marché pour faire 10 courses si c'est possible.
Ben oui.
Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous préférez des courses en Arabie Saoudite, des courses à Paris, des 2 courses? Combien de courses il y a eu à Paris l'année passée? Deux?
Ouais.
Deux, c'est ça. C'est mieux aller au pays arabe. Oui, ils ont l'argent, ils vont payer, mais il n'y a personne. Il y a plus, on doit avoir toutes les sortes de problèmes qu'on a eu, comme le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Au moins aux États-Unis, c'est correct. Si la Formule 1 vient d'annuler un contrat avec la Russie pour des raisons politiques, peu importe, c'est des sponsors qui sont partis, c'est de l'argent qui sont partis. As a perdu son sponsor, mais c'est pas juste A, parce que toutes les petites choses qui avaient derrière, ils sont partis aussi avec. Mais maintenant, le monde se plaint, mais pourquoi 3 courses aux États-Unis? Mais au moins là, un peu plus correct, je ne sais pas, mais. Je préfère 3 cours aux États-Unis que 2 cours à Paris et 1 cours à l'Arabie Saoudite. Et bientôt, on va voir les. On
Las
va voir
Vegas.
les cadavres. J'espère que personne va m'écouter parce
Ah
qu'ils sont
oui.
capables.
Non, je peux te confirmer qu'on n'a pas d'écoute. Ben, à moins que quelqu'un décide de
Dit,
taguer
oh, c'est mon idée, hein, une ampliation.
le Qatar. Non. Mais aussi le truc, c'est que aux États-Unis, il y a pardon, il y a une demande. Donc il faut répondre à la demande. Je sais que pour la majorité des Européens, ça leur fait suer d'avoir 3 courses aux États-Unis, surtout dû au fait que peut-être pour la course à Vegas, ils vont être obligés de rester éveillés, mais est-ce
Mais
qu'ils...
il y a aussi le fait que je crois que ce qui dérange surtout, c'est qu'en ce moment, l'intérêt de la Formule 1 commence beaucoup à se tourner ailleurs qu'en Europe. Tu sais, ce n'est pas pour rien que Andretti a de la difficulté à obtenir une écurie. J'ai l'impression que, puis je pense que c'est une chronique en France que j'écoutais l'autre fois, et il disait, tu sais, l'expansion vers les États-Unis, c'est bien beau, mais nous, ils nous oublient. Mais c'est pas nécessairement ça. C'est que justement, tu l'as bien mentionné, le marché s'expansionne parce qu'il y a des gens qui sont prêts à consommer le sport. Et au début, oui, peut-être que la Formule 1 se concentrait plus sur l'Europe et c'est normal. Les gens s'intéressaient là, maintenant, à la Formule 1. Maintenant, les États-Unis ont autant, peut-être plus d'intérêt. Donc, c'est là où on doit aller. Et c'est là donc où la Formule 1 doit aller. Donc, à un moment donné, il y a aussi une juste part à faire dans tout ça.
Ouais, Anna Maria.
On sait que la source est en Europe, mais en même temps, vous voulez tous les courses dans l'Europe, mais appelez ça championnat européen, c'est tout.
C'est ça. Puis
Et, mais ça va pas déranger à personne, mais que le
bon,
monde
on peut plus.
se plaigne parce que, ah non, parce que la course à Montréal, on doit la regarder la soirée, ah, on doit se lever tôt, on doit se coucher tard. Et je dis, ben non, mais nous ici, pendant les 2020, aucune course était de bonheur ici.
Quoi que
On
les
se
grands...
devait réveiller tout le temps, on se devait se réveiller tout le temps le matin. Mais oui, on aime ça déjeuner avec la formule,
Ben, quoi
c'est
que
sûr.
le Grand Prix de Turquie 2020 est à 5 h du matin. C'est
Ouais, c'est
la seule
ça.
exception.
Mais tout va, nous, ici, ça sent bien Australie, hein?
Ouais, à 1 h du
C'est
matin.
la nuit ici, et on a des matins, hein? Et les fans, ils sont ici. Et on est des fans, super fans, je dis à les Européens, on est des super fans ici.
Puis aussi, il ne faut pas oublier les Australiens et Néo-Zélandais en Océanie, eux, ils regardent les Grands Prix le lundi matin. Donc,
C'est fou.
moi, je comprends. Je vais pas mettre nos auditeurs européens à dos, mais en Australie, ils doivent dealer avec ça pendant toute la saison. Donc, déjà que le Grand Prix de Las Vegas aura lieu un samedi soir pour que la course soit le dimanche matin en Europe, ben
Les réalités sont
les
différentes.
réalités
Il
sont
faut juste
différentes.
accepter qu'à l'occasion, il y a des exceptions pour certains.
C'est
Et
ça.
d'ailleurs, des désagréments pour plusieurs personnes en Australie, tu sais.
Ouais, ils doivent dealer avec ça. Ils doivent dealer avec ça à l'année longue. Parlant de Vegas, maintenant que ça va être officiel, bon. Je dis officiel, il nous reste
Y a
45
déjà
minutes.
officiel, les déjà officiel ou pas encore?
Ben, je vais dire,
Théoriquement,
on
quand vous
enregistre.
allez l'écouter, ça devrait être officiel.
En fait, ça devrait être officiel parce que il est bientôt 22 h 30, heure du Québec, l'heure de l'Est en Amérique du Nord pour tout ça. Mais Las Vegas qui revient dans le calendrier de Formule 1 après. Le grand succès que le Grand Prix de Caesars Palace a eu en 81 et 82 une très bonne idée de rouler sur un circuit Mickey Mouse dans un parking d'un excellent hôtel. Bon, il y a des images qui circulent du circuit, dont une bonne partie qui va être sur la strip. Quelle est votre impression du retour de la Formule 1 à Vegas?
Ben, j'en conclus, si ça reste, parce que j'ai l'impression que ça va être un Grand Prix événementiel, mais peut-être un peu too much, c'est ça. Je veux pas que ça tombe dans le stéréotype de Vegas, puis je veux pas, mais j'ai l'impression que ça va être ça. Donc, c'est sûr que j'y vois un certain point négatif dans ce sens-là. Mais tu sais, comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit dans notre groupe, je laisse la chance aux coureurs, je laisse la chance à Vegas d'avoir leur Grand Prix, de nous présenter un circuit intéressant, de nous présenter quelque chose qui va pouvoir nous accrocher. Parce que à la fin, c'est ça vraiment l'important. C'est que le circuit soit intéressant et que les courses soient intéressantes. Parce que après ça, que ça soit à Vegas ou à Indianapolis ou au Minnesota, l'important, c'est que le circuit soit le fun. Puis c'est pas la ville nécessairement qui change. Outre que dans les trois premières minutes, quand on présente les beautés d'un pays ou d'une ville. T'sais.
Je dois dire quand même, la Formule 1 a quand même été à Phoenix pendant 3 ans. Et il y a eu plus de courses. Il y a eu plus de fans pour une course d'Autruche, que pour un Grand Prix avec Ayrton.
Mais oui, mais à d'où les autruches, tellement le fun.
c'est du pack racing. Bon, enfin, mais oui, non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que c'est mieux de viser des villes où il y a de l'intérêt, où tu peux aller chercher un peu plus de monde, que d'aller dans des endroits un peu reculés comme Phoenix.
Oui, ça, je suis complètement d'accord. Bon.
Mais au moins à Vegas, ça rentre dans les décors, parce que même s'il n'y a pas trop de monde, mais je pense que ça va être à guichet fermé, parce que de toute façon, le monde est à Vegas pour dépasser de l'argent. c'est la place, c'est la place pour ça, mais en même temps, où ils vont faire la course, je ne sais pas, mais au moins, si c'est pour remplacer les Grands Prix de Russie, bon, tant qu'à faire. Mais moi, je n'étais pas comme trop chaud à l'idée d'un Grand Prix à Vegas, mais après de tous les critiques aujourd'hui, l'Europe qui critiquait moi, je suis content.
Comme j'ai dit tantôt, ça va dépendre du produit qu'on nous offre.
Ouais.
Parce que en ce moment, c'est bien beau de nous annoncer un Grand Prix à Vegas, mais si le circuit n'est pas intéressant, n'offre pas de chances de dépassement ou d'un spectacle X, en même temps, ça m'étonnerait que Vegas fasse les choses à moitié.
Mais regarde combien de fois il était annoncé les Grands Prix à New Jersey. Oui, Benny Ecclestone a annoncé plusieurs fois le Grand Prix à New Jersey, et après il était comme il a tombé à l'eau tout le temps, parce que oui, ça n'a pas marché, mais lui il voulait un Grand Prix à New York, comme New York n'était pas, mais comment est-ce que tu veux faire un Grand Prix à New York dans les rues?
Mais je dois dire, Benny Ecclestone a et puis tous les endroits de New York, même aller proche du Nassau Coliseum où jouaient les Islanders de New York pour tenir un Grand Prix à New York. Donc, la Formule 1 a réussi avec succès ce que Benny Ecclestone a tenté de faire pendant des décennies, c'est-à-dire tenir une course à New York. Mais c'est ça, c'est que maintenant, c'est l'aspect est différent. Si tu me disais, la Formule 1, Liberty Media voulait avoir une course à New York City, c'est sûr que un promoteur aurait fait des pieds et des mains pour que le projet soit concrétisé et que la Formule 1 fasse de même parce qu'elle sait qu'il y a probablement un intérêt pour avoir une course à New York City. Et c'est la même chose avec Las Vegas. Ça aurait probablement été la même chose avec Indianapolis, qui est le seul, avec le circuit des Amériques, le seul circuit de type grade 1 présentement. Évidemment, on exclut Miami parce que le circuit n'est pas encore complet, complété. Donc, c'est ça. L'intérêt entre l'ère Bernie Ecclestone et l'ère Liberty Media est totalement différent.
Ça, c'est certain.
Oui, c'est pas la même chose. C'est pas le même intérêt aussi, parce que maintenant, il faut pas oublier que Liberty, c'est une compagnie américaine, fait qu'ils mettent un peu plus d'efforts pour que les choses, ça marche des côtés américains, et ça, quand même, a fait marcher les affaires pour les circuits, mais il y a plusieurs circuits de grade 1 aux États-Unis, mais ils ne sont adaptés à la Formule 1. Non. Oui, je pense qu'il y a 12 ou 3, mais ils ne sont pas adaptés à la Formule 1. Oui, ils sont grade 1, mais il n'y a pas toute l'infrastructure nécessaire pour la Formule 1.
Et en même
temps... C'est la différence, parce qu'ils ont besoin de grade 1 pour les motos aussi. Fait que c'est ça.
Ben, quoi que je pense, Laguna Seca...
Laguna Seca
est un circuit de grade 1
pour Laguna Seca, oui. Mais il y a des mots qui m'expliquaient que non.
Ouais, parce que je pense
parce que moi, je disais là-bas. oui, Laguna Seca.
Ben, quoi qu'il roule plus là-bas, mais en tout cas. Mais c'est ça, non, comme je disais, si jamais la Formule 1 allait à Elkhart Lake, Road Atlanta, Watkins Glen ou bien même Sebring, ça. Il aurait fallu débourser, je pense, des dizaines et des dizaines de millions pour refaçonner le circuit. Et ce qui voudrait dire même perdre toute l'essence de ces circuits. Parlant de repaver de circuits, la Formule 1 voudrait aller en Afrique. Et le circuit de Kyalami en Afrique du Sud est un prétendant sérieux, sérieux pour... avoir le retour de la Formule 1 dans le continent africain pour la première fois depuis 1993, justement lorsque la Formule 1 avait mis les pieds, ou les roues devrais-je dire, en Afrique du Sud. Donc Kyalami qui est présentement un circuit de grade 2, mais qui a la possibilité de se transformer en circuit de grade 1, évidemment avec les installations, toute la logistique, la sécurité du circuit. Peut-être même Maroc aussi. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que la Formule 1 doit impérativement retourner en Afrique? Marc-André? Ah, Anna-Maria.
moi, je dis... Ils cherchent les marchés, ils cherchent le nécessaire. Est-ce que ça serait beau, Africa? Je ne sais pas. Mais parce que si tu dis qu'il y a un pays qui va débourser des milliers pour un grand prix, mais ils ont tellement besoin d'autres choses que tu dis, mais ça c'est moins comme, je ne sais pas, c'est moins beau.
Parce que je vais le dire personnellement, bon, d'accord, j'ai des racines sénégalaises, on a un circuit de grade 3 à Dakar, mais par exemple, si allez googler circuit de Dakar Baobabs avec un S à la fin, et ce circuit est un circuit de type grade 3. Il faudrait, moi je pense que je vais exagérer, mais il faudrait des centaines de millions de dollars pour refaçonner le circuit, parce que non seulement ça va prendre toute la logistique, mais aussi de meilleures routes pour accéder au circuit. Parce que bon, j'ai dit ça sur toute réserve, ça fait 15 ans que je ne suis pas retourné au Sénégal. Mais côté route, c'est pas fameux. Déjà, pour faire, je vais donner un exemple, aller de Dakar à Rufisque, je pense que c'est 30 km, mais ça m'a pris. Normalement, ça prendrait quoi? Une trentaine de minutes? Ça m'a pris 3 heures!
Tout mélange, il peut mélanger la course de Formule 1 avec un rallye en même temps.
Ouais, mais non, mais il n'y a plus le Dakar. Mais tout ça pour.
Non, mais c'est une blague. Les rallyes, oui. C'est pour se déplacer au circuit.
Aussi, oui. Mais ça aurait pu être un rallye. Mais tout ça pour dire que il faudrait un circuit où il y a vraiment de l'intérêt. Et ce n'est pas parce qu'il y a une obligation d'aller dans un continent africain parce qu'on veut faire. On veut que ce soit un championnat du monde. Techniquement, selon les règles de la FIA, je crois qu'il faut au moins 3 continents. Bon, 2020 étant une exception à cause de la COVID et les restrictions de déplacement. Mais si la Formule 1, si la Formule 1 veut vraiment aller dans un pays africain, l'argent, il faut qu'il y ait un promoteur qui soit assez riche pour... non seulement payer le contrat pour la Formule 1, les frais de... Parce que je pense, en dollars américains, par exemple, pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, selon ce que j'ai lu sur Athletic Interest, c'est 55 millions de dollars par année pour accueillir un Grand Prix. Alors que Monaco, c'est quoi? 16 millions à peu près?
Non, Monaco, c'est gratuit.
C'est vrai, c'est gratuit. Miami aussi, c'est gratuit. mais c'est ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent et... c'est pas pour faire désespérer les gens qui veulent en
Europe.
Mais il faut de l'investissement. C'est ce qu'on avait dit en Inde, en Corée, avec qui ont eu de longs contrats, mais ils ont jamais été capables de respecter le contrat parce que il y avait pas assez d'intérêt. Et surtout.
C'est pas possible.
Et qu'est-ce que tu fais à mettre un circuit au milieu de nulle part, et ça je mets une pointe au circuit de Corée du Sud. Donc
c'est urbain.
Ouais, urbain. Il y a pas encore.
Les maisons n'étaient jamais faites.
Ouais, elles n'ont jamais été faites. Non, mais bref, tout ça pour dire, il faut qu'il y ait un pays. Il faut que le gouvernement soit capable de dire oui à la tenue d'une course de Formule 1 pour des années, parce que c'est sûr que la Formule 1 veut s'y installer à long terme. Elle pense à long terme. Alors. Moi, je pense que des pays comme le Maroc, probablement Casablanca, Marrakech, je le souhaite, ou l'Afrique du Sud, soit à Kyalami ou bien, je ne sais pas, à Cape Town. Par exemple, la Formule 1 va aller en Afrique du Sud la saison prochaine.
Mais, Turquie est déjà là. Turquie, c'est un beau circuit. C'est juste mettre la coupe dedans.
Bon, ouais, mais la Turquie, est-ce qu'elle va vraiment accepter? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être... qui rêvent. Il y a beaucoup de Turcs qui veulent revoir la Formule 1. Je leur souhaite aussi. C'est un magnifique circuit, mais encore là, ouais, là, il faut qu'il y ait de l'argent.
Oui, aussi il y avait parlé cette année de Colombie. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais non, mais c'est pas vrai ça. Mais ils sont fous. C'est quoi ça, un cours de Formule 1 en Colombie? Il n'y a même pas un seul circuit. Je ne connais pas de circuit, rien. Mm-hmm. Et ben, tout le monde s'est emballé avec ça. Je dis, ben non, mais ça doit être quelque chose d'autre. C'est lui qui a dit ça, il ne comprend pas très bien ce que ça implique. Et c'était ça pour vrai.
Ouais.
Quelqu'un a lancé juste la boule, mm-hmm. pour dire on veut que la Formule 1 vienne ici, mais juste comme ça. Et après, quand on posait des questions, il a dit, ah non, mais on va faire on va sonder, on va voir combien ça coûte. Il dit, ouais, alors c'est ça. Tu sais même pas combien ça coûte, tu n'as même pas de circuit.
Ah ouais, c'est possible. Et puis, je sais qu'on en parlait... je pense que c'était l'année dernière. On parlait de d'avoir... Parce qu'il y a plus de circuits urbains qui poussent et qui poussent. Je pense qu'un circuit urbain est possible parce que la réalité est que ça attire beaucoup plus de gens et les gens vont pouvoir aller, par exemple... je sais pas, par exemple, un samedi après les qualifications en après-midi, ils peuvent aller à certains endroits et faire la fête. Donc,
Mais oui, Pinoado, parce que ça dépend aussi. Regarde ce qui s'est passé à Montréal. Quand, juste pour mettre les circuits est urbain, en théorie, à demi. Mais quand ils ont fait la Formule E, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a explosé dans la face parce que le monde ne veut pas ça. Miami, pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que le monde ne voulait pas. Oui, et à chaque tracé, ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas. Le monde, maintenant, il veut se promener avec son petit chien, il ne veut pas que la bruit le dérange. C'est ça. Je pense que les circuits urbains, oui, peut-être oui, mais Arabie Saoudite, parce que là-bas, personne n'a le droit de se plaindre. Mais.
Non, 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 pas maintenant. Pas maintenant.
Mais non. En tout cas, vous avez compris au moins. C'est ça, mais. Et à Monaco, il est faisable parce que c'est Monaco, il est là. Mais ils ont essayé à Espagne, à Valencia, c'est...
Ça n'a pas duré longtemps.
Ça n'a pas duré longtemps, c'était pas beau, c'était comme quelque chose que. En tout cas, il y a des sous le monde, fait que tu imagines des circuits urbains. En plus, les autos, ils ont besoin de la place. Regarde qu'est-ce qui se passe à Arabie Saoudite. Les crash, combien dépassent les équipes à chaque fois. Mais... Les Formula F2 et la Formule 1, aussi, des grosses crashs à chaque fois parce qu'il y a des moulets de béton partout.
Mais comme on le disait avec Marc-André, le problème avec l'Arabie Saoudite, à Jeddah, c'est parce que il y a une corniche. Donc, c'est très difficile de...
Mais en théorie, ils ont dit qu'ils vont construire un nouveau circuit. Je ne sais pas s'ils ont commencé à construire ou quelque chose, mais c'était comme Jeddah, c'était comme...
Temporaire.
Oui, c'est ça.
Maintenant, on va passer à l'autre sujet, le dernier. Dominique Allais dit, bon, à partir de 2026, on a 30 courses de Formule 1. Est-ce qu'un calendrier rotatif serait la meilleure solution possible pour justement... éviter des épuisements professionnels, une saturation du championnat du monde de Formule 1. Est-ce que c'est quelque chose qui serait une solution possible au plan de Dominique Allais pour justement, bon, ou par exemple, dans l'optique d'avoir, par exemple, on a 25 courses. Il y a 30 pays en lice qui ont déjà des contrats. Est-ce qu'un calendrier rotatif, c'est une bonne solution? Marc-André.
Ben, premièrement, je pense que oui. Est-ce que pour la Formule 1, c'est une option intéressante? Là, je crois que je commence à avoir des doutes parce que chaque promoteur veut réellement avoir son Grand Prix chaque année. T'sais. Maintenant, ça va dépendre des contrats qui vont être, si jamais... Cela arrive et ça m'étonnerait beaucoup parce que pour nous, les fans, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Bon, ben, tu conserves une certaine stabilité avec tes 25 Grands Prix tout en ayant de la nouveauté qui revient de temps en temps. Parce que on le voit, c'est quand même un peu excitant de voir un nouveau pays ou du moins un nouveau Grand Prix arriver. Bon, là, il ne serait pas nouveau parce qu'on les reverrait, mais au moins, il y aurait un moment où, bon, on ne les voit plus, ils reviennent. Par exemple, Imola ou des Grands Prix historiques qui pourraient revenir de temps en temps dans le calendrier quand l'argent y est. Puis tout ça, je pense qu'il y a moyen de jouer avec un calendrier pour que les fans, les promoteurs et la Formule 1 soient heureux. Maintenant, s'ils veulent 30 courses, j'ai l'impression qu'ils vont en avoir 30 courses. Mais à un moment donné, il va falloir écouter quand même les personnes avec qui... C'est parce que tout ce qui tient la Formule 1, c'est les gens derrière. Mmh. Oui, t'as les patrons, t'as tout, mais sans les pilotes, sans les écuries, sans les fans, t'as pas de produit. Là. Mmh. Donc, À un moment donné, c'est eux qu'il va falloir écouter. Et moi, je pense qu'un calendrier rotatif, c'est assez intéressant parce que tu permets d'aller toucher à tous les marchés que tu souhaites, mais à l'intervalle de 1 ou 2 ans.
Anna Maria?
Pour moi, c'est tranquille, c'est nous. Pour commencer, avec le calendrier rotatif, je pense que
Non, mais ce serait 30
c'est.
là, mais 25 courses.
Non, mais en même temps, il y a plein de pays qui ont un contrat à long terme. Le Canada, il y a un contrat à long terme. Le Jeddah, il commence. Arabie Saoudite, tout le monde, il y a sa date de Grand Prix. Il y a quelques autres qui, pour des conditions météorologiques, peu importe, ils ne peuvent pas changer. Et des pays comme le Canada, on a un contrat à long terme pour 10 années. Tu ne peux pas intercaler des courses non plus.
Non, non, je
Parce
comprends, mais
que oui, il y a qui vont rentrer, vont revenir, vont partir, mais celui-là, il reste pas longtemps. Ce n'est pas eux qui vont te maintenir dans les marchés.
quand on regarde le Canada, par exemple, j'ai l'impression que pour nous, ça pourrait devenir une option intéressante. Pourquoi? Ben, le contrat de 2029, on le paye, mais c'est quand même assez relativement bon comme contrat. On va s'entendre qu'on est quand même assez chanceux ici au Canada. Je me souviens plus c'était quoi le montant d'argent payé par tout le monde, par les contribuables pour obtenir le Grand Prix, mais quand on regarde les nouveaux contrats faits en Arabie Saoudite et tout ça, on trouve quand même se compter chanceux. J'ai l'impression que le prochain, il pourrait faire mal. Tellement que peut-être qu'on ne pourra pas leur signer si jamais. Il y a réellement une possibilité que l'on perde le
Excusez-moi.
Grand Prix en 2029 si on n'est pas capable ou si l'inflation ou les décisions justement de la Formule 1 ne nous aident pas à le conserver. Donc, si pour ça, il faut signer des contrats de 1, d'intervalle de 2 ans, ben moi, je signerais parce que tant qu'à perdre le Grand Prix, j'aimerais quand même ça conserver un an sur deux au moins le Grand Prix pour qu'on puisse quand même avoir ce petit cadeau-là de temps en temps.
Et finalement, dernier vrai point, mais celui-là, je sens qu'il va être un peu controversé et je vous demanderai d'avoir des réponses courtes. Est-ce que l'arrivée de nouveaux Grands Prix signifierait le départ de certaines courses historiques, par exemple Spa, dont le contrat se termine bientôt, des courses qui sont établies au calendrier depuis des années? Anna Maria.
Oh, mais je pense qu'il y a quelques courses qui vont rester quand même. Silverstone, il ne bouge pas de là. Monaco, peu importe ce qui se passe, ça ne bouge pas de là. Canada, même s'il y a eu des problèmes et tout, c'est un des préférés, pas juste peut-être pas de la Formule 1 de Liberty, mais c'est un préféré des pilotes de tout le monde vient ici. Et qu'il y a des courses historiques qui ont resté et qui vont continuer à rester, même Brésil, je pense que c'est le bon problème.
Marc-André?
Je vais faire ça court. Je souhaite qu'il en reste. J'ai l'impression qu'il y a certains promoteurs qui vont peut-être se désintéresser. Par contre, je pense que la Formule 1 doit faire un effort pour conserver certains circuits et grands prix historiques parce qu'on en parlait tantôt. La source, c'est aussi l'histoire de la compétition. Certains grands prix qui ont tellement d'histoire que tu peux pas cracher ça comme ça juste parce que tu veux de l'argent.
Ouais, c'est vrai. Exactement,
Mais
c'est.
est-ce que ça va être la décision prise? Ça, on n'a aucun contrôle de ça. On est, disons, les victimes de la business. À un moment donné, c'est une entreprise, la Formule 1, et on doit aussi l'accepter comme ça.
C'est ça. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP. excusez la petite voix. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Pour parler pour l'épisode numéro 104 et numéro 4 de cette saison 4, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp en un seul mot, lebulletingp en un seul mot. Et évidemment, nous sommes disponibles sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Donc, partagez-le tout avec vos amis. Laissez-nous aussi des commentaires, des notes. des critiques aussi. si vous voulez aussi m'envoyer promener parce que j'ai un peu bâché sur l'Europe.
Non, pas ça.
Ok, non. Ok, peut-être pas ça, évidemment, là, mais pas sur le compte.
Pas personne.
Non, mais pas sur le compte du bulletin GP, s'il vous plaît. Sur mon compte personnel. Mais vous pouvez le faire, laisser des revues, des commentaires sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Donc, Anna-Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Abdou, c'est toujours un plaisir.
Merci à toi.
Ça me fait plaisir. Donc, on va aller écouter la fin du match du Canada contre le Panama. Donc, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Je vous retrouve la semaine prochaine et surtout, soyez prudents. Allez, salut tout le monde!
Salut à tous!